il n'y a pas seulement des vendeurs et des gens, mais aussi de voir qui le fait. Et les gens en honneur, les gens en déshonneur. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, qui soit un mort par honneur, un succès, un kilomètre, préparé pour toute bonne œuvre. Mais juste convertir de la jeunesse et poursuivre la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui inventent le Seigneur en poursuivre. Mais évite les questions fortes et intenses, sachant qu'elles engendrent des contestations. Il ne faut pas que le sort du Seigneur conteste, mais qu'il soit doux en vertu, grâce à enseigner et en support, enseignant avec douceur les opposants, attendant que Dieu peut-être ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité, et s'ils ne se réveilleront pas du pied du diable, parce qu'ils ont été pris pour faire sa volonté.
Nous sommes occupés de deux sujets fort importants dans ces versets. Depuis le verset 14 jusqu'au verset 21. Le premier de ces sujets est la parole de la vérité. Le serviteur fidèle, il a à exposer cette parole de la vérité, la coupant droit, comme il a dit. Et cette parole de la vérité est mise en contraste avec les disputes de mots, ce qui est sans profit, ce qui est même pour la subversion, comme un frère l'a rappelé, la catastrophe, littéralement dit, la catastrophe de ceux qui entendent, des auditeurs. Puis, en contraste avec les discours vains, des discours qui ne donnent rien du tout, qui ne produisent rien, et profanes, discours par lesquels on ose s'attaquer à la parole de Dieu même, cette parole de la vérité, au Seigneur Jésus, qui est révélé par cette parole. Il est parlé de deux hommes qui se sont résolument écartés de cette parole de la vérité, de la vérité, Hyménée et Philette, et il a été souligné combien de fois le faux docteur est accompagné d'un autre faux docteur, ils font leur travail à deux, ce qui évidemment renforce le travail de l'un. Et alors ces deux hommes exprimaient une grave fausse doctrine. Il disait que la résurrection avait déjà eu lieu, et par la même, il renversait la foi de quelques-uns. Venir dire que la résurrection a déjà eu lieu, c'est en fait annuler l'espérance, la valeur de l'espérance du chrétien. Si la résurrection a déjà eu lieu, nous n'attendons plus le retour du Seigneur, nous n'attendons plus le jour de la résurrection de nos bien-aimés qui se sont endormis. C'est donc quelque chose de grave, c'est une fausse doctrine semblable est une véritable amputation, grave, large amputation de la vérité divine. C'est là le premier sujet dont nous nous sommes occupés, la parole de la vérité, qui est mentionnée tant de fois dans cette dernière épître de l'apôtre Paul, dans chacun des chapitres qui nous est parlé de cette parole, une ou plusieurs fois. Dans le premier chapitre, il est parlé des saintes paroles, Timothée devait avoir un modèle de ces saintes paroles. Puis au chapitre deuxième, notre passage, la parole de la vérité. Et au chapitre troisième, il est parlé de l'écriture, non seulement Dieu parle, mais sa parole a été écrite. Nous avons la parole de Dieu écrite, l'écriture, et dans cette suprême, c'est la suprême ressource du croyant. Dans ce verset 16 du chapitre 3, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et alors, la conclusion pratique au chapitre 4e, c'est prêche la parole. Cette parole que tu connais, Timothée, le bien que tu la prêche, prêche la parole. L'autre grand sujet dont nous nous sommes occupés est le solide fondement de Dieu sur celui le fondement qui demeure. Quel est donc ce fondement? C'est ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a créé, c'est ce que Dieu a établi. Ce qui vient de Dieu et ce que Dieu a fait, cela demeure. N'y a-t-il pas un encouragement, un suprême encouragement dans une telle parole qu'elle a dans cette dernière épître de l'apôtre à Timothée qui place devant nous ce si pénible tableau du déclin de la vie de l'Église, de penser qu'il y a quelque chose qui demeure, le solide fondement. On peut s'attaquer à l'Écriture, on peut s'attaquer à la parole de la vérité. L'apôtre ajoute toutefois, le solide fondement de Dieu demeure. Dans l'Ancien Testament, Moïse, dans ses dernières paroles, au début du dernier cantique qui lui a été donné de réfugier, il y a déjà cette pensée, quand il est dit « il est le rocher ». On a comparé ce solide fondement à un rocher. Il est branlable. Il est le rocher, son œuvre est parfaite. Son œuvre, c'est-à-dire l'ensemble des actions de Dieu. Pas dans l'œuvre à laquelle nous pensons tous avec bonheur, mais en Deutéronome 32, il est parlé de tout ce que Dieu a fait, de l'ensemble de ses actions. Son œuvre est parfaite. Le solide fondement de Dieu demeure en contraste alors avec l'édifice à la vie duquel nous assistons. Cette église professante, responsable, nous la voyons ainsi se dégrader gravement. Et cela est en contraste avec le solide fondement de Dieu qui demeure. Ce fondement a un sceau tel qu'une médaille qui a un endroit et un revers. Il est dit d'une part, ce qui est du côté de Dieu, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Et d'autre part, la pensée de la responsabilité du témoin qui se retire de l'iniquité, qui prononce le nom du Seigneur. Relevons encore ceci, la fréquence du nom du Seigneur dans cette épître, et seulement dans ce dernier alinéa du chapitre 2, verset 14 à verset 26, au verset 14, protestant devant le Seigneur, au verset 19, le Seigneur connaît ceux qui sont siens, qui se retirent de l'iniquité, qui prononce le nom du Seigneur. Au verset 22e, il est parlé de ceux qui invoquent le Seigneur, encore plus. Au verset 24e, il est parlé, il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste une belle fréquence évidente du nom, du titre du Seigneur, celui qui a et qui a toujours toute autorité. Nous sommes dans des temps extrêmement pénibles, la crise de l'Église, mais le Seigneur demeure le Seigneur. Il a toujours toute autorité sur les siens et sur son témoignage. Il est le Seigneur. Nous avons dit encore, donc d'un côté, nous avons la pensée de la grâce de Dieu. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Dans le livre du prophète Nahum, nous avons déjà un peu cette pensée. Mais le prophète parle du mal qui régnait dans son temps et commence tout au début de son oracle par parler de ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit de Dieu? Dieu est vengeur. Il est injuste, quel caractère terrifiant, chers amis. Mais il y a une deuxième série de caractères de Dieu où il est dit que le Seigneur, que l'Éternel est lent à la colère. Voilà déjà comme la pensée de la grâce qui s'annonce. Et enfin, troisièmement, dans ce merveilleux tableau que le prophète n'a eu trace de Dieu lui-même, il est bon, il est un refuge, il connaît ceux qui se confient en lui. Il a été donné déjà au prophète Nahum de dénoncer cette assurance. Il connaît ceux qui sont siens. Il connaît ceux qui se confient en lui. L'autre côté du sceau, c'est la responsabilité du témoin du Seigneur. Il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur. Il se retire de l'iniquité. L'iniquité est un mot français qui traduit le terme de l'original grec qui est présenté sous
deux acceptions différentes. Dans notre passage, c'est l'unicité, c'est la vie qu'il y a, la dictée, c'est la justice, la vie qu'il y a, c'est le contraire, c'est la justice. L'unicité, c'est l'injustice dans notre passage, et dans bien d'autres passages, il est écrit de l'apôtre Paul. Tandis que l'apôtre Jean parle de l'unicité qui est péché, ou le péché qui est l'unicité, c'est la nomia, c'est-à-dire l'absence de loi. L'unicité est, selon les écrits de l'apôtre Jean, ce chemin de propre volonté, un chemin qui est sans loi, qui est sans direction, qui est sans frein. C'est cela l'unicité selon les enseignements de l'apôtre Jean. Dans notre passage, c'était essentiellement la pensée de l'injustice, de ce qui s'oppose au caractère même de Dieu, qui est le Dieu juste. Dans son essence, Dieu est lumière d'une part, il est amour d'autre part, étant lumière, il est le Dieu juste. Il est le Dieu saint. Eh bien, qu'il se retire de l'iniquité, de ce qui est injuste, de ce que Dieu ne peut absolument pas approuver, qu'il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur. Les frères Mardi ont déjà parlé du verset 22 et du verset 20 et 21. Et nous voyons que le désir général, le désir des tous, c'est que nous revenions certainement sur de telles vérités. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi des vases de bois de terre, et les uns d'honneur, les autres à déshonneur. Et c'est avec profit, nous en sommes persuadés, que nous considérons ensemble de telles vérités. Comme on l'a dit dans la prière, vérité d'une si haute importance. Il est important de revenir à de telles vérités, pour partir de ces dimensions, il est nécessaire que nous revenions à de telles vérités, car parce que l'Église, d'une part, l'Église œuvre de Dieu, d'autre part, l'Église confiée à la responsabilité de bâtisseur humain. Ce que devient ce témoignage de l'Église responsable sur la terre. Voilà ce que nous avons à considérer, ce témoignage qui s'en va à la ruine, et la ruine de l'Église professante, responsable, est incontestablement très grande. Alors les exhortations sont là, quant aux témoins qui désirent rester fidèles au Seigneur, à celui qu'est le Seigneur, les exhortations sont là, faut-il le dire, d'une extrême importance.
C'est-à-dire la deuxième phase du chant. Peut-être qu'il serait bon de le rappeler ce qui s'est passé lors de l'affaire du Vaudor en Exode 33. Au verset 22, nous disons, au verset 7, pardon, nous disons, Moïse prit une tente et la tente dit pour lui, oh, camp, loin du camp, et il appela la tente d'assignation. Il arriva que tous ceux qui cherchaient l'Éternel sortirent vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Mardi dernier, un frère me rappelait un passage important d'Hébreux 13:13 en relation avec notre verset d'aujourd'hui. Sortons donc vers lui, hors du camp. Ici, il fallait sortir vers la tente d'assignation. La pensée est donc la même après cette épouvantable idolâtrie. Eh bien, la nuée et la gloire de l'Éternel ne pouvaient plus être là avec le peuple. Et Moïse dresse cette tente hors du camp. N'avons-nous pas là aussi, en nous plaçant sur le terrain chrétien aujourd'hui, au milieu de la ruine générale de celle qui conduit à l'homme, la même injonction, nous sommes invités à sortir, mais sortir vers une personne, vers Christ lui-même, hors du camp. Le camp, c'est tout l'ensemble de ce qui porte le nom de chrétien. De tous ceux qui professent et s'amusent sans avoir la vie. Et nous sommes dans cette grande maison, nous aussi, nous ne pouvons pas en sortir, ce serait apostasie. Nous y sommes, mais nous avons à nous retirer de l'iniquité, comme on vient d'entendre, tout ce qui est opposé à la juste pensée de Dieu, exprimée dans sa parole. Eh bien, c'est en effet quelque chose de très sérieux, d'individuel et de fondamental. Nous pensons beaucoup aux jeunes qui sont nombreux ici et qui se posent des questions, et nous aimerions que les choses soient exposées le plus clairement possible à cet égard. Il faut savoir où nous sommes et pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas de la prétention. Il y a 150 ans, nos financiers sont sortis avec des larmes. Se sont séparés de chaque croyant, mais ce n'était pas du tout leur deuil, mais tout simplement une humble obéissance à la parole de Dieu.
Si nous avions l'impression, ou si nous retenions que la table à laquelle nous nous réunissons est une table comme toutes les autres, comme il y en a de nombreuses dressées dans la chrétienté, qu'affirmerions-nous? Ce serait très grave, car en disant cela, nous nous rendrions solidaires de l'accroissement de la ruine de l'Église. Car si la table à laquelle nous nous réunissons est une table comme toutes les autres, nous aggravons ainsi la ruine de l'Église. Mais nous aimons rappeler que, au siècle dernier, en effet, lorsque le Seigneur a réveillé les siens, ce n'est pas tout d'abord en les établissant sur un fondement de doctrine, de vérité importante sans doute, et qui ont été remises en lumière incontestablement. Mais le premier mouvement qui a fait mouvoir ces chers croyants, ce n'est pas tant les vérités auxquelles nous attachons tant de prix, mais c'est bien ce que nous venons de lire et d'entendre rappeler. Il s'est imposé à eux la nécessité de se séparer de tout ce qui était faux et corrompu, qu'ils se retirent de l'iniquité, de tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu exprimée si clairement dans l'Écriture et touchant des sujets si importants relatifs à la personne de Christ et à la santé. Ce n'est donc pas pour se replacer sur un terrain de vérité, si importante qu'elle soit, si juste qu'elle soit, que nos chers devanciers sont sortis des différents systèmes. Mais tout d'abord, sentant impérativement, impérieusement la nécessité de se séparer du mal auquel, avec lequel ils avaient été attachés jusque-là. Et nous savons bien que c'est avec des cœurs infiniment brisés, le sol mouillé de leurs larmes, que ces chers croyants se sont retrouvés sur un terrain de séparation pour Dieu, s'arrachant à des milieux dans lesquels ils étaient considérés, dans lesquels ils étaient aimés, quant à leur qualité, quant à leur intelligence, quant à leur faculté si appréciée. Ce n'était pas une chose simple pour eux de se séparer, mais c'était en relation avec l'autorité du nom du Seigneur qui s'imposait à eux au-dessus de toute autre considération. Et nous avons rappelé cette lettre d'un chef devancier dans laquelle il affirme que ce passage du prophète Jérémie a conditionné toute sa vie et a été le point de départ si important et imprimé dans son âme par le Seigneur. Si tu sépares ce qui est vide de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Représentons-nous ce que cela a dû être pour des chers croyants de s'arracher au milieu dans lesquels ils vivaient jusque-là pour se retrouver sur un terrain de séparation qui leur a coûté tant de peine. tant de larmes. Mais d'autre part, ce qui a été confié à la responsabilité de l'homme, en quelque temps que ce soit, il est devenu banal de le répéter, mais on ne le répétera jamais assez. Et on n'attirera jamais assez d'attention des auditeurs sur ce point. Ce qui a été confié entre nos mains a toujours été perdu. Et ce n'est pas sans étonnement qu'en 1977, chacun peut le contrôler, je crois que c'est au mois de mars, nous lisions d'une lettre qui avait été écrite exactement un siècle plus tôt. Elle porte la date de mars 1877. Et cette lettre mérite d'être lue et revue. Ce cher frère peut dire, à cette époque, en 1877, le témoignage confié à l'homme n'a jamais duré plus de 100 ans. Et je prie le Seigneur, les étés, pour dire, hâte sa venue, afin que il recueille l'assemblée, le témoignage, avant sa ruine complète, comme il ne peut manquer d'en être à l'égard de tout ce que tu as confié à l'homme. Et si le témoignage a été maintenu, c'est un petit témoignage, bien fait de sans doute, a été maintenu jusqu'ici, c'est bien en raison de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a soutenu. Car s'il dépendait de nous, il y a bien longtemps déjà que nous serions disparus de la scène sur le témoignage, bien que le Seigneur ne se laisse jamais sans témoignage. Et il y aura un témoignage qui la détient jusqu'au bout. Qui voudrait dire, nous représentons Philadelphie. Ce serait de la dernière inconséquence vis-à-vis de ce que nous sommes devenus. Mais il y aura un témoignage qui la détient jusqu'au bout, c'est-à-dire le témoignage de quelques fidèles qui maintiendront les droits du Seigneur, qui ne renient pas son nom, et qui maintiennent au milieu d'eux l'autorité de l'Écriture sans équivoque, non pas d'une partie seulement de l'Écriture, éludant ce qui nous gêne, ce qui nous contrarie, mais nous soumettant à la parole de Dieu tout entière, sans en excepter la moindre parcelle. Il y aura un témoignage qui la détient jusqu'au moment où le Seigneur viendra, puisqu'il promet à cette petite Église, bien que faible étant fidèle, il lui promet la récompense suprême liée à sa venue. Mais ferons-nous partie de ceux que le Seigneur reconnaît comme portant ce caractère de Philadelphie? C'est là une question de la plus haute importance.
Pour pouvoir se retirer de l'humanité, pour pouvoir séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, il faut avoir des critères, il faut avoir une base solide, et c'est pourquoi l'accent est mis sur la parole de la vérité, dans le passage qui précède, comme cela a été souligné et développé. Il y a donc là un ordre moral dans l'exposé de l'apôtre. Et pour nous aussi, si l'on pense pas à nous séparer de quelque chose parce que nous ne plaisons pas, parce que ces chrétiens-là n'ont pas la joie sympathique que d'autres, ou pour toutes sortes d'autres motifs, ce qui doit conduire, c'est exclusivement la parole de Dieu, et c'est pourquoi il faut la connaître. Il y a donc des éléments qui peuvent nous ouvrir les yeux si nous sommes droits, si nous cherchons notre chemin. Que la plupart d'entre nous, par grâce, nous avons été élevés dans un milieu où la séparation a déjà eu lieu, nous avons été conduits sur un terrain que nous reconnaissons être le bon. Mais moralement, il faut faire ce chemin quand même si c'est 100 ans plus tard, le chemin qu'ont fait nos grands-parents, nos parents, en versant des larmes, comme ça a été rappelé, et savoir, ça a été dit aussi, pourquoi nous sommes là et pas ailleurs. Alors il y a cette injonction qui comporte un côté douloureux, difficile, déchirant, comme tous qui vont être confrontés à ces problèmes par des contacts avec les croyants pieux, et voilà, nous ne marchons pas avec eux, pourquoi? Bien, il faut pouvoir essayer, d'après la parole, le chemin que nous avons suivi. Et
on s'est référé à Exode 33. C'est sûr, dans ce passage-là, il y a le chemin que prend Moïse était dicté par le mal qui se trouvait dans le peuple, au milieu du peuple, et donc il se séparait. Mais il y avait aussi, et d'abord, le côté de ce qui attirait. Et ça est souligné par l'expression « ceux qui cherchaient l'Éternel ». Que cherchons-nous ? La présence du Seigneur. Hébreux 13, sortons vers lui dans du temps. Dans le bel épisode de la caverne, dans l'histoire de David, par ceux qui étaient dans les aides, dans l'amertume, etc., s'assemblèrent vers lui et ils leur cherchent. Et donc le côté positif de la séparation, sur lequel ils ont besoin d'insister pour que la séparation n'ayant pas seulement ce côté douloureux et affligeant, mais un côté heureux, parce que dans ce mouvement que nous faisons, dans ce chemin que nous prenons, nous rencontrons quelqu'un, nous avons son approbation, nous jouissons de sa présence, Matthieu 18:20 peut être réalisé. Ta présence est le bien suprême. Tu me suffis. Je n'ai pas besoin de cette organisation humaine, de toute cette religion avec ce qu'elle a, ce qu'elle comporte de nécessaire pour l'homme et qui ne se justifie pas par la parole de Dieu. Mais c'est la présence de mon Sauveur qu'il me faut et que je vais chercher ainsi, que je vais trouver ainsi. Et en outre, ici, alors, nous avons le côté de l'utilité. Est-ce qu'on pourrait dire, mais voilà, il y a autant de chefs croyants, alors on va travailler avec eux et nous serons plus nombreux et nous montrerons à ceux vers lesquels nous allons que les chrétiens sont au moins unis, qu'ils se tiennent les coudes, qu'ils sont tous pour l'évangile. Et on aura ainsi plus d'énergie en mettant toutes nos forces ensemble. Eh bien, ce passage nous montre comment est-ce utile le maître. C'est en se retirant de l'unité. Il n'y a pas d'autre moyen utile, alors qu'on pensait être plus utile en restant avec les autres. Au maître, là aussi c'est l'autorité, c'est le Seigneur. Je peux penser au sujet de la préparation pour tout bonheur. Dans Éphésiens 2, au verset 10, je vous ai parlé des œuvres qui sont préparées pour cette œuvre que Dieu a préparée afin que nous marchions dans elle. Et si c'est l'inverse, ce sont les serviteurs qui sont préparés pour les œuvres. Il est précieux de rapprocher ces deux passages. Donc on dit qu'il y a des œuvres qui sont là, toutes préparées. Mais Dieu veut préparer ses instruments. Et il les prépare comment? Pas à la manière humaine, mais en les séparant de tout un mélange qui ne leur aiderait pas, qui les alourdirait, qui leur donnerait des principes humains. Et voilà, cette séparation, elle rend le bas utile et elle le prépare pour tout bonheur. Il peut alors accomplir. C'est pas des hommes appréciés des hommes. Le vase de Marie, le parfum versé, ça n'a été compris que par son Seigneur. Mais c'était une bonne œuvre à ses yeux. Et là, c'était une bonne œuvre envers moi, du Seigneur. Et se retirer d'utilité, ou ils sont à terre, ils comprennent bien, mais qui ne nous empêche pas d'apprécier ce qui peut être fait dans votre vie. Et vous réjouir si, comme vous le disiez la porte, si l'évangile est annoncé ailleurs et que les femmes sont dans le Seigneur. Sinon, nous serions des parisiens.
Un don, il n'y a aucun don donné dans l'Église si ce n'est un membre du corps de Christ. Ça, c'est une vérité capitale. Sauf que si du bien n'est produit par le ministère de la parole ou que ce soit, nous pouvons tenir pour certains que c'est un membre du corps de Christ. Le Seigneur ne donne pas de dons en dehors du corps et à qui que ce soit qui ne soit pas un membre du corps. Mais c'est un membre qui fonctionne hélas dans des conditions où nous ne pouvons pas le suivre et le reconnaître. Mais nous reconnaissons que c'est un membre du corps de Christ. On a parlé de critères. Je peux encore ajouter deux mots à cet égard et dire il y a deux critères essentiels. Et la parole de Dieu les établit clairement de telle manière que toute contestation à cet égard montre bien une propre volonté à l'œuvre pour repousser la parole de Dieu. Deux critères, disons. Dieu ne reconnaît que ce qui est du corps et ce qui est de l'esprit. Autrement dit, Dieu ne reconnaît pas d'autre corps sur la terre que le corps de Christ. William Kelly disait, supposons un rassemblement de croyants très important, et dans lequel il y aurait des personnes de haute qualité, des personnes chrétiennes, et des personnes de haute qualité qui posséderaient des dons naturels, et profitant d'une organisation bien mise au point, nous assisterions dans un tel rassemblement à des choses qui nous impressionneraient. Nous dirions, quelle élévation de pensée, quelle qualité, quel ordre dans tout ce qui est, dans tout ce qui est accompli au milieu de ces chrétiens. Eh bien, les étés, que dirait le Seigneur de cela? Que dirait le Seigneur? Le Seigneur dirait, voilà le plus grand des désordres. Car ce rassemblement, constitué sur une base humaine, à partir de credo, de règlement humain, est un rassemblement indépendant, une négation pratique de ce que le Seigneur forme et anime dans ce monde, c'est-à-dire le corps de Christ. Dieu ne reconnaît pas d'autre corps que le corps formé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit habite dans la maison, mais il forme et anime le corps à partir de la tête, glorifié au ciel. Dieu ne reconnaît pas d'autre corps que le corps de Christ sur la terre. Et nos chers pères nous ont enseigné, serions-nous encore le plus petit lambeau de cette Église? Nous devions montrer à partir de ce petit lambeau comment l'Église devrait fonctionner comme corps de Christ. À quelques-uns seulement, sur ce terrain de la vérité, petit lambeau bien faible sans doute de l'Église, nous devions montrer ce qu'elle est, ce qu'elle n'aurait jamais pu cesser d'être, c'est-à-dire le corps de Christ formé et animé par le Saint-Esprit. Dieu ne reconnaît comme corps que le corps de Christ et ne reconnaît rien d'autre que la présence et l'opération du Saint-Esprit pour former et animer ce corps. En dehors de tout ce qui est inventé par les hommes, école de théologie, formation de pasteur, que sais-je. Et nous respectons évidemment tous, tout bien produit. Nous venons de l'entendre, ou sinon nous serions des pharisiens. Mais nous sommes responsables, a dit quelqu'un, de quoi? Dieu il est responsable du but. Nous, nous sommes responsables des moyens. Et nous ne pouvons pas employer les moyens que Dieu ne recommande pas en vue du bonheur. Dieu est souverain, et au temps de l'apôtre, certains prêchaient l'évangile dans un esprit qui nous est difficile, dont il nous est difficile de saisir le caractère méchant. Et pourtant, Paul se réjouit. Mais pourrions-nous nous associer à ce qui est contraire à la pensée de Dieu, à ce qui n'est pas du corps et de l'esprit? Dieu ne reconnaît que ce qui est du corps et de l'esprit.
Ce verset 19 nous présente aussi quelque chose qui est très encourageant. Fondement, disons-nous, au début du verset. Un fondement est quelque chose sur quoi quelque chose d'autre est construit. Quels sont les bâtisseurs? Sans doute ceux à qui Dieu a donné de le faire. Mais plus sûrement encore, Dieu lui-même, qui par tous ses serviteurs a construit. Ce qu'il a construit, ce n'est évidemment pas la grande maison. Ce terme de grande maison ayant quelque chose de
tout à fait péjoratif. Mais ce que Dieu a construit existe, et ce qui a été dit tout à l'heure de Philadelphie nous rappelle que ce que Dieu a construit existera malgré les ruines, malgré les faiblesses, jusqu'à la venue du Seigneur. Au deuxième point, nous voyons aussi que dans la première partie du verset 19, c'est la souveraineté du Seigneur qui est affirmée. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Et elle est affirmée par rapport aux personnes. Les personnes qui servent le Seigneur, les personnes des serviteurs, les personnes des chrétiens, eh bien ceci, Dieu, le Seigneur, le Fils, bien sûr, ici, est le seul à le connaître. Par contre, la fin du verset, qui insiste sur notre responsabilité, ainsi que cela a été dit, nous donne la possibilité de juger des choses qui se retirent de l'iniquité. Cette injustice qui a été définie, c'est quelque chose que l'Esprit nous enseigne, nous a enseigné dans les Épîtres et ailleurs aussi. Nous sommes supposés le connaître. Et par conséquent, c'est notre responsabilité évidente de nous séparer de cette iniquité. Et ceci se comprend dans le domaine ecclésiastique, ainsi que cela a été dit très vigoureusement, mais aussi certainement du domaine moral. Personne ne pourrait songer à écarter le domaine moral de ceci. Mais nous voyons ensuite au verset 20 que l'Esprit donne des éclaircissements. Alors que verset 19, le Seigneur connaît ceux qui sont siens, sa souveraineté à l'égard de ceux qui lui appartiennent était proclamée, dans le verset 20, il annonce quelque chose qui doit être perçu par nous aussi, c'est-à-dire qu'il y a des vases d'or et d'argent, et aussi des vases de bois et de terre. Et à propos de ces derniers vases, il y a une attitude à avoir vis-à-vis des personnes aussi, et elle nous est donnée au verset 21, si quelqu'un donc se purifie de ceci. Il ne s'agira donc pas seulement de se purifier vis-à-vis des fausses doctrines, vis-à-vis des positions qui ne sont pas compatibles avec la sainteté du Seigneur, mais aussi de se séparer de ceux qui, que l'Esprit nous montre, être des vases à des honneurs.
Quelqu'un demandait, en relation avec ce qui vient d'être dit, avons-nous le droit de désavouer l'Église? L'Église dans sa totalité, dans son ensemble, non pas l'Église de Christ, la véritable Église, l'Assemblée qui s'est acquise au prix de son sacrifice à la croix, mais l'Église comme corps responsable, avons-nous le droit de désavouer l'Église? Que répondions-nous? C'est la question qui nous est posée. C'est une question opportune, celle-là. Eh bien, le commentaire intelligent, spirituel de ce cher frère, c'est ceci. Nous n'avons pas le droit de désavouer l'Église. Nous avons entendu tout à l'heure que nous ne pouvions pas sortir de la grande maison sans apostasie. Faisons partie de cette Église en fuite. Et chacun de nous, hélas, y a apporté sa propre contribution. A-t-on jamais rencontré dans la parole de Dieu, dans l'histoire du peuple de Dieu, quelqu'un qui se glorifie d'être en dehors des conditions sur lesquelles, des conditions du peuple sur lesquelles le jugement est suspendu? Que fait Esdras? Que fait Néhémie? Que fait Daniel et d'autres? Ils prennent sur eux. Daniel, tu es un homme bien. Ils prennent sur eux la ruine du peuple de Dieu. Mène deuil sur elle, comme s'ils avaient commis eux-mêmes les péchés qui amèneront sur ce peuple ce jugement si terrible. C'est l'attitude qui trouve un écho si profond dans le cœur de Dieu. Voir ces hommes intègres dans leur marche, mais qui pleurent sur la ruine du peuple de Dieu. Et invoque sa clémence en faveur de ce pauvre peuple, qui polluent les droits de la gloire de Dieu, qui polluent la gloire de Dieu. C'est quelques-uns, peu nombreux sans doute, mais animés de cet esprit, pour Dieu, ils représentent le peuple tout entier. Petit résidu bien fait. Si le Seigneur ne nous eût maintenu un bien petit résidu, c'est lui qui l'a fait. Nous aurions été semblables à Sodome et à Gomorrhe, les Haïens. Et pour le Seigneur, et bien que ce soit en vertu de sa grâce que ce petit résidu est maintenu, pour le Seigneur, pour le cœur du Seigneur, ce petit résidu représente son peuple tout entier et est l'objet de son approbation et de sa faveur. Mais nous n'avons pas le droit de désavouer l'état du peuple de Dieu parce que nous n'y avons pas pratiquement. Mais ce que nous avons le droit de désavouer et le devoir de désavouer, nous venons de l'entendre rappeler, c'est tout ce qui est faux et corrompu, tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu. Cela, nous avons non seulement le droit, mais le devoir de le désavouer. C'est pourquoi nos chers devanciers disaient, pour en conclure par cette phrase souvent rappelée, notre témoignage est la dignité du corps de Christ. Proclamé non pas dans d'autres conditions que notre participation à la scène du Seigneur le dimanche matin, car nous ne pouvons pas séparer le côté de ces deux côtés de la scène, la communion les uns avec les autres, la communion avec le Seigneur, et en même temps la manifestation de l'unité du corps de Christ. Nous proclamons cette unité du corps de Christ, ne serions-nous que quelques-uns, embrassant dans nos cœurs et dans nos pensées, sans en excepter aucun, tous ceux qui font partie de ce corps, c'est-à-dire tous ceux qui ont la vie de Dieu, qui ont reçu le Saint-Esprit, en vertu duquel ils font partie de ce corps de Christ. Mais il ne manquait pas d'ajouter notre témoignage de la unité du corps de Christ au sein de la ruine la plus profonde, mais aussi à la ruine de l'Église. Y a-t-il de l'orgueil en cela? Nous nous établissons sur ce qui ne peut être ébranlé. Il y a un seul droit, le solide fondement de Dieu de l'âme. Mais tout à la fois, nous reconnaissons que quant à sa manifestation extérieure, tout est perdu et nous pleurons sur cette ruine.
En entendant les paroles exprimées en rapport avec ce passage, on est une telle confusion. Nous sentons que nous avons besoin plus que jamais de sagesse, de discernement, de dépendance, de confiance, au lieu d'une terre. Et où pouvons-nous trouver cela? Dans les communions conscientes et heureuses avec les autres. Pour pouvoir bien marcher avec les frères, ou avec le monde religieux, ou avec le monde social, il faut avant tout marcher avec Dieu. Et remplir comme une autre connaissance, la connaissance du saint volonté. Si je suis à remplir la connaissance de sa volonté, comment pourrais-je marcher à sa gloire? Et comment pourrais-je discerner au lieu d'une telle ruine le chemin de Dieu? Car quel que soit là, quel que soit ce désordre dans lequel il y a toujours, et il reste toujours un chemin de Dieu. À nous de le découvrir. Et comme nous sommes remplis de cette connaissance de Dieu en toute sagesse et intelligence, ces expressions sont très importantes parce qu'elles soulignent notre état social. C'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance qui amène à la présence de Dieu. Et la première chose qu'elle fait, elle nous dit. Elle nous tient la place. Et alors, il est important, justement, d'être rempli de cette connaissance pour plaire au Seigneur tout déjà. Et nous avons reçu, dans cette expression, un appel. Au milieu de cette ruine, une part de caractère et de l'église. Nous ne devons pas confondre l'église comme des au sein de laquelle Dieu habite par son esprit, et le corps de Christ. Ça, c'est comme tout ça. Nous avons les expressions qui sont d'un dévain dans Matthieu, lorsque Pierre fait cette belle confession enseignée par Dieu, même par Père, sur cette confession-là, le Seigneur dit, je bâtirai mon nation. Ce qui est appelé la ruine, c'est ce qui est confié pour moi de parole, c'est l'Église comme témoignage dans ce monde. Et quand on voit la fin de ce matin, on est un peu écrit. Parce que l'Église viendra telle.
Dans la chrétienté, en pensant à ce qui sont les églises de multitude, qui attirent les autres qui sont associatifs, à ça, il y a quelques noms. En pensant à ces chers hommes qui ont une foi vivante et qui aiment le Seigneur, qui à travers ces ombres le cherchent, nous ne pouvons pas douter que le Seigneur se révèle à elle. Mais, pouvons-nous dire que le Seigneur est dans le système? Il se révèle à ses croyants, certainement. Certainement, il y a une promesse à servir et une promesse à s'arrêter. Mais le Seigneur n'est pas dans le système. Il n'y a qu'une table, il ne peut pas y en avoir deux. Et souvenons-nous bien que nous ne serons jamais utiles à ces chers croyants en abaissant le niveau. Jamais. Jamais, jamais. Nous leur serons utiles en les aimant dans le Seigneur, en leur parlant du Seigneur, en laissant le Seigneur les éclairer parce que nous ne sommes rien. Mais ne pensons pas que, en abaissant le niveau, nous leur ferons du bien.
Qu'est-ce que nos anciens les ont fait avec eux? La table du Seigneur, il y a tant de tables d'or avec ça. Et un frère disait avec justesse que si nous considérons la table du Seigneur à laquelle nous participons comme une table comme il y en a dans les systèmes religieux, du même niveau, nous avons ajouté à toute cette confusion une scène. Avec des éléments peut-être moins dévoués que moi. Christ n'est pas dévoué. La table du Seigneur, c'est la table dressée sur le terrain de l'unité du corps. Où est-ce publiquement est manifesté, même au-delà de la ruine qui existe, où est-ce que publiquement est manifestée cette unité à la table du Seigneur? Et c'est pourquoi il faut bien savoir, il faut être exercé, pourquoi nous sommes là, et pas bien. Il y a derrière des choses qui peuvent vouloir bien approuver dans notre système, dans notre milieu chrétien, et un dévouement, et un des moyens d'approuver. Mais nous sommes rassemblés. Nous visions pas. Nous avons beaucoup reçu. Dieu, dans sa grâce, nous a placés dans un son témoignage. C'est le dernier témoignage avant l'enlèvement de la vie. Mettant en lumière les vérités cachées depuis des siècles, et nous plaçant au sein d'un tel témoignage, qui est le témoignage de Dieu. Quel honneur! Combien nous sommes responsables de tenir ferme ce qui nous a été confié et de rester envers et contre tout sur ce terrain qui est le vrai terrain.
En rapport avec ce solide fondement de Dieu qui demeure, comme nous l'avons lu, en rapport avec ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont siens, il vaut la peine, un frère l'avait déjà fait tout à l'heure, il vaut la peine de relever, disons, le pluriel, la collectivité. S'il s'agit du côté de Dieu, Dieu voit tous les siens où qu'ils se trouvent. On peut bien dire, dans quelque système que ce soit, ils aiment le Seigneur Jésus, ils ont mis leur confiance en lui, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. C'est un pluriel. Tous ceux qui sont amis, le Seigneur les connaît. Mais quand il s'agit alors de cette responsabilité de l'autre côté du sceau, comme nos frères le soulignent maintenant, il est alors question d'un singulier, il n'est pas parlé de se retirer, qu'il se retire au pluriel, ou qu'il se purifie au pluriel, il est dit à chacun de nous qu'il se retire de l'iniquité, tout quiconque prononce le nom du Seigneur, mais un petit peu plus loin, si donc quelqu'un se purifie. Et cela ne veut pas dire, du moment que l'exhortation est individuelle, que chacun de nous, nous devons avoir affaire avec le Seigneur, nous devons demander au Seigneur qui nous conduit toujours dans son chemin, un chemin de fidélité, et qui nous amène à cette réalisation d'une réelle séparation. Nous parlons du point de vue ecclésiastique maintenant, bien entendu, pour que la séparation morale soit soulignée dans les versets qui suivent. Demander au Seigneur qu'il nous donne toute lumière, nous les avons, la lumière, nous l'avons dans la parole de Dieu, pour que nous nous purifions chacun en particulier. Il y a là ce côté, ce caractère individuel de l'exhortation. Chacun, chaque frère, chaque soeur doit avoir affaire avec Dieu pour demander à Dieu cette capacité réellement de se séparer et de se purifier, pour employer les verbes ici. En rapport avec ce que nos frères ont dit également concernant l'humiliation qui devrait être davantage la nôtre, en pensant à l'état de l'Église aujourd'hui, combien de fois tant de frères autrefois ont pleuré réellement, réellement, sur l'état de ruine de l'Église. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Les années ont passé. Est-ce que nous réalisons véritablement cette humiliation à l'égard de l'état de ruine de l'Église? Il nous semble que dans l'Ancien Testament, en rapport avec un tout autre ordre de choses, nous avons un passage instructif en rapport avec cet appel à l'humiliation. C'est dans le livre du prophète Ézéchiel où il est parlé du temple nouveau. Chacun sait qu'à la fin des jours, il y aura un temple nouveau à Jérusalem. Jérusalem ne portera plus le nom Jérusalem, mais dernier mot de ce livre du prophète Ézéchiel, Jérusalem, l'Éternel est là, expression par présence, voilà ce sera le nom Jérusalem. Dans les chapitres qui précèdent, de nombreuses exhortations sont données. Mais en lisant de tel chapitre, et nous avons été frappés par ces mots, au chapitre 43e, lisons-les bien, Ézéchiel 43, verset 10. Toi, fils d'homme, montre à la maison d'Israël la maison. Donc, ce temple à venir, toutes les dispositions que je vais prendre à l'égard de ce temple à venir, afin qu'ils soient confus à cause de leur iniquité. Ensuite, qu'ils mesurent la disposition, et s'ils sont confus de tout ce qu'ils ont fait, fais-leur connaître la forme de la maison et son arrangement, ses issues, ses entrées, et toutes ses formes, et toutes ses ordonnances, et toutes ses formes, et toutes ses lois. N'y a-t-il pas un enseignement dans ce passage? Dieu nous montre, en rapport avec ce qu'est l'Église, ce qu'est l'Assemblée, selon ses conseils, et ce qu'est le témoignage de l'Église, combien ça peut m'étrange. En effet, il importe que nous en soyons médiés. Toi, fils d'homme, montre à la maison d'Israël la maison. La maison, pour nous l'Église, l'Assemblée, Dieu nous montre tout ce que nous devons savoir à l'égard de l'Église, soit dans les conseils de Dieu, soit dans sa responsabilité sur la terre. Et puis alors, quel est le but? Quel est le but de toute cette présentation de la maison, de la vérité à l'égard de la maison de Dieu? Afin qu'il soit confus à cause de leur iniquité. Alors au verset 11, s'ils sont confus, s'ils réalisent cette humiliation qui leur convient, de tout ce qu'ils ont fait, dont la fidélité, ayant en effet marcher dans le chemin de l'équité. S'ils sont confus de tout ce qu'ils ont fait, veuillez reconnaître la forme de la maison. Ainsi donc, la maison nous est présentée par la parole de Dieu afin qu'il y ait des sentiments d'humiliation dans nos cœurs en pensant à ce que le témoignage chrétien est devenu. Et puis alors, si Dieu met une humiliation ainsi réalisée, Dieu se plaira à nous instruire dans tous les détails concernant ce qu'on appelle la vérité des esprits, concernant la vérité de l'Église. Il semble que de ce passage d'Ézéchiel 43, la pensée de l'humiliation qui convenait aux enfants d'Israël, qui nous convient aujourd'hui, ressort d'une façon particulière.
Création pour accueillir en Dieu, elle ne se commande pas. Elle est d'abord individuelle. Pour connaître l'humiliation, il faut être sensible, comme acte, aux intérêts du Seigneur, à la gloire du Seigneur. Un Daniel était très sensible. Il était très sensible à la gloire de l'Éternel et au fait que la gloire de l'Éternel était liée à ça. Et alors il faut être très sensible à ça. Comment plus garder, et c'est ce qui compte là, une bonne conscience. C'est ça qui nous rendra sensible les intérêts et les lois du Seigneur. Comment plus garder une bonne conscience? Nous vivons dans un monde où le mal ne fait que progresser. Nous sommes en contact avec le monde, le mal, constamment. Et finalement, si nous ne veillons pas, petit à petit, insensiblement, notre conscience se confirmera, sera de moins en moins sensible. Et alors, quelle est la grande chose qui va nous traverser? Comment puis-je garder une conscience délicate, sensible à ce qui est les droits du Seigneur, sensible au mal? C'est dans le contact constant des choses. Si je me dis que je n'ai pas le contact constant des choses saintes, par la parole, par la prière, habitant dans le sanctuaire, la présence de Dieu, bien sûr, habitant là, et bien je garde une conscience de ça. Et alors je peux, dans un tel état, sensible au Père et au Seigneur, m'humilier. Et par cela même, je crois, en un autre. N'oublions pas, devant Dieu, le chemin de l'humiliation, c'est le chemin de la bénédiction.
Donc, dans ce passage, comme ça, nous avons fait remarquer la séparation du mal doctrinal d'abord, et ensuite la séparation du mal moral. Le premier nous paraît moins grave que le second. Et ça tient sans doute parce que nous vivons dans un monde très tolérant. On est habitué à ce que chacun puisse penser ce qu'il veut. Les idées vont plus à grand concours. Et puis, on estime dans nos pays de liberté que chacun peut penser ce qu'il veut. Enfin, bien que ce n'est pas ainsi sur toute la planète, mais enfin dans nos pays. Ce mal doctrinal paraît peu grave, et nous serions portés peut-être à nous laisser influencer par ces courants de pensée. Donc, bon, chacun a sa manière de voir ses pensées. Mais nous ne perdons pas de vue, nous n'avons pas le droit de penser ce que nous voulons en présence de la parole de Dieu, qui nous donne la pensée de Dieu. Et c'est la pensée de Dieu que nous devons avoir et pas les autres. Et c'est pour ça qu'elle fait autorité pour nous. D'où il y a sur des points particuliers peut-être certaines divergences, baptême ou autre point, ça, mais là n'est pas important. Mais quand la personne du Seigneur, ses gloires morales, qui touche à son œuvre, qui touche à Dieu lui-même et qui est concerné, la parole est claire sur certains points, alors là, nous n'avons pas le droit de penser ce que nous voulons. Le mal doctrinal est mentionné dans le premier.
est tout gravité. N'affecte pas la conscience d'une manière aussi grossière, pas que le mal moral, mais il est là aux yeux de Dieu et nous devons en tenir compte.
Quelqu'un pourrait dire, mais nous retenons, vous retenez des idées toutes faites que vous avez apprises dès votre jeune âge, dans votre famille, c'est une question naguère de valeur profonde, car vous adhérez, disons, à un ordre de pensée qui vous a été communiqué, inculqué. Nous devons répondre à cela un verset du premier livre des rois, un jeune homme, c'est Salomon, avant d'être établi sur le trône, au moment où il est établi sur le trône, c'est un beau commencement de celui de ce jeune roi. Il éprouve le besoin d'avoir la pensée de Dieu. Et il dit dans sa prière au verset 9 du premier livre des rois, chapitre 3, « Donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute. » Nous avons l'équivalence du cœur qui écoute à la note, c'est-à-dire un cœur intelligent qui comprenne. Et ne croyons pas que nous pouvons marcher avec une adhésion purement extérieure à ce qui nous a été enseigné par nos parents, par nos prédécesseurs. Il faut, c'est impérativement nécessaire qu'à un moment donné, nous fassions chacun de nous le point, comme l'on dit. Et que nous demandions au Seigneur exactement ce que Salomon exprime dans sa prière. Donne-moi un cœur intelligent qui comprenne. Que j'acquière, ainsi que le disait un grand homme, que j'acquière pour moi-même ce que j'hérite. Que je ne me contente pas d'une adhésion extérieure sans l'avoir profondément repensé pour moi-même. Si j'en suis là, et ce n'est pas étonnant qu'il y a tant d'hésitations et tant de choses, hélas, manifestent la faiblesse que nous ne qualifierons pas dans laquelle nous sommes tombés. N'est-ce pas précisément cette absence de conviction profonde pour soi-même quant à ce qu'est le témoignage du Seigneur aujourd'hui? Une expression que l'on entend, c'est que nous faisons partie de l'assemblée d'une telle localité. C'est une conception tout à fait fausse. Nous avons dit tout à l'heure que Dieu ne reconnaît que le corps de Christ formé de tous les vrais croyants qui ont reçu le Saint-Esprit. Il ne reconnaît que l'Esprit de Dieu à l'œuvre qui forme et anime ce corps, indépendamment et en dehors de toute activité humaine. Si même c'est une activité humaine avec un fond de christianisme réel, nous ne devrions jamais dire, sauf par accommodation évidemment, je fais partie de l'Assemblée de Paris ou de Marseille. L'Écriture ne parle jamais dans un sens qui nous permet, l'Écriture n'enseigne jamais quoi que ce soit qui nous permet de tenir un tel langage. Nous faisons partie du corps de Christ. Dieu ne reconnaît que ce corps et nous ne trouvons jamais dans l'Écriture la mention ou l'idée d'être membre d'une assemblée locale. Chaque assemblée locale, là où elle se réunit, est l'expression locale de ce corps de Christ dont l'unité est proclamée à la salle du Seigneur. Mais nous ne sommes pas membres d'une assemblée locale, nous sommes membres du corps de Christ. C'est très important, c'est une notion qui doit être la base de tout ce que nous acquérons pour être maintenus dans une condition intelligente quant à la position du témoignage.
La santé, on prend pas sa santé, pas sa santé, notre frère, soeur, enseigné par Dieu, qui se traînait sur le témoin de la communauté. La santé, dans son localité, c'est tous les trois jours de cette nuit que nous aimerions voir venir sur le terrain de l'unité. C'est pourquoi nous devons jamais. Ils ne vont jamais prendre, et on entend des papiers, ils ne vont jamais prendre la scène autour de moi. Parce que je prends la scène comme membre du corps de Christ, en réalisant dans le très moment si précieux que tous ses membres sont sur le cœur du Seigneur. Tous. Ses bras placés pour soi-même, c'est un esprit d'indépendance et qui est contraire à cette vérité de l'unité forte que nous proclamons à la table du Seigneur.
Nous serons heureux alors de parler, par exemple, de l'Assemblée pauvre, l'Assemblée qui se réunit pauvre. On dira l'Assemblée pauvre. L'Assemblée étant donc cette Assemblée locale, l'expression de l'Assemblée d'une façon générale. L'Assemblée qui se réunit pauvre, au Rieux et en tant d'autres localités, grâce à Dieu. Mais il est plus juste de s'exprimer ainsi plutôt que de parler de l'Assemblée du Brûle, du Rio. Nous appartenons à une Assemblée locale, mais une Assemblée locale qui se réunit au Brûle, expression de l'Assemblée universelle. Il est parlé de l'unicité. Mon frère tout à l'heure a souligné cette pensée concernant l'unicité. Les jeunes gens, hier soir, nous ont demandé en fait qu'est-ce donc que l'unicité. Tout au début de la réunion, nous avons dit deux mots. Quant à l'exception de ce terme, spécialement dans les écrits de l'apôtre Paul et dans les écrits de l'apôtre Jean. Dans la pensée de l'apôtre Jean, l'unicité est quelque chose de différent de ce que nous avons ici. C'était injuste, ici, dans le passage, l'unicité. C'était injuste, ce qui n'est pas juste selon la pensée de Dieu. Qu'est-ce donc que cette unité qu'on nous permet de répéter la chose? Parce que quelquefois, en certains temps, on a insisté en disant l'unité, c'est le mal doctrinal. D'autres fois, on a dit, c'est le mal moral. Les deux pensées sont là, parfaitement exprimées. Tout d'abord, le mal moral, puisque l'apôtre Paul parle d'Hyménée et d'Hyménée, qui sont écartés de la vérité, disant que la résurrection a déjà eu lieu. Il est donc là, question d'une grave erreur, grave un enseignement d'une qualité colossale, c'est le mal doctrinal, qui se retire de l'unité, qui se retire de tout mal doctrinal. Mais par la suite, l'apôtre donne des exhortations d'ordre moral. Quand il dit au verset 22, fuis les convoitises de la jeunesse, poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, cela nous montre que nous avons à marcher dans un chemin, moralement parlant, qui soit à la gloire de Dieu, comme notre frère l'a souligné il y a quelques moments. Il est donc question dans cette iniquité de laquelle nous devons nous retirer, il est donc question du mal moral et du mal doctrinal et du mal moral aussi. Les deux grandes formes de mal sont impliquées dans ce terme iniquité. Nous allons nous retirer de cela. Et pourtant, notre frère a souligné maintenant, nous y revenons dans le sens d'une réponse donnée à quelques gens qui nous ont questionnés sur ce point-là.
On l'a souligné tout à l'heure, et ce retrait de ce qui doit être pratiqué, et vis-à-vis de l'ensemble, une situation, la chrétienté ensemble, porte ce caractère d'équité, d'injustice, et puis il y a, de façon pratique, une séparation des abus. Quand nous avons à, au verset 21, si quelqu'un se confie de ceci, sur les bases, il s'agit de se séparer d'un but. On a beaucoup insisté tout à l'heure sur la marque de cette séparation. Elle est marquée pour nous dans la célébration de la scène, la table du Seigneur. C'est la table du Seigneur et seule la table du Seigneur. Mais il y a un problème et qui préoccupe beaucoup les jeunes de France. Alors, bien sûr, n'est-ce pas, nous sommes bien d'accord, quant à la question de table, bien sûr, la séparation est nette et peut-être rejetée. Mais en dehors forme cette participation à la table du Seigneur, autant la faciliter, autant la présentation de l'évangile en particulier, voilà des amis, des frères en Christ, qui sont pas à la table du Seigneur, et nous connaissons bien nous-mêmes comme des frères en Christ, puisqu'ils font partie du corps de Christ, et qui déploient une certaine activité, et qui nous offrent des possibilités. Et vraiment, nous ne voyons pas pourquoi nous ne nous voyons pas à nous-mêmes. Et il faut multiplier les moyens pour que les résultats se multiplient aussi. Il est bien remarqué que les indications pour formuler ce principe de séparation des individus, l'apôtre emploie le mot base. Quand il est question de base, il est immédiatement question de service. Ce paragraphe donc déjà, par l'emploi de ce mot, nous montre que quant à l'activité, il y a quelque chose à observer. Quand Paul parle de son service, en 2 Corinthiens 3, 4, il nous parle de race, n'est-ce pas ? Nous allons se présenter dans le vase de terre, et pour que l'excellence, la puissance, de Dieu et non pas de nous. Nous ne sommes que des vases. Même si nous sommes des vases d'or et d'argent, nous ne sommes que des vases. L'œuvre, c'est le maître, la maîtrise. Ce qui est demandé, c'est d'être utile au maître, que le maître puisse se servir de nous. Volontiers, on dit, je veux servir ce maître. Il serait bien préférable de dire, je me souviens que le Seigneur se serve de moi. Nous ne sommes que des instruments. Et nous n'avons à aucune manière à choisir le mode ni la façon d'exercer ça. C'est le Seigneur qui se sert. Le Seigneur peut permettre que les moyens puissants, modernes même, ne soient pas employés. Et il permet que les hommes portent dans des pays qui ont été par ailleurs. L'évangile et le réconfort de notre temps. Mais dans le chemin de l'Église, dans lequel l'humiliation dont on a parlé tout à l'heure nous conduira certainement, nous n'avons pas à chercher les grandes causes. Qui a mémorisé le mot l'Église de cause ? Qui cherche les grandes causes ? Et c'est dit Adam. Ah. Il a remarqué que le Seigneur, quand il envoie les 70, comme quand il envoie les 10, les 102 ne les envoie pas par beaucoup d'importance. Il aurait pu envoyer là 7 dizaines, chacun formant là un groupe qui puisse, qui aurait une importance, qui aurait une davantage d'audience. Mais non. Quand c'est un groupe, il est on a remarqué tout à l'heure que les faux docteurs ont fait parler. C'est une autre façon de la théologie. Une autre façon de la théologie. Mais regardons dans le livre des actes. Il y a des choses puissantes qui se réalisent. Est-ce qu'elles se réalisent par la conjonction de tout prix en nombre, en bonhomme, en moyen ? Dans les premiers chapitres, Jacques vivant, Pierre vivant. Pierre souvent seul, plus tard un Philippe tout seul, et Paul, pendant son service, il aurait pu s'accompagner d'un grand nombre de ouvriers. Nous voyons presque toujours cheminer d'abord avec Barnabas, ensuite avec Silas. Et si au chapitre 20 des Actes, il se trouve toute une petite cohorte qui le ramène vers Jérusalem, c'est peut-être parce qu'il y avait à convoyer. Le don des assemblées à Jérusalem. Mais d'une façon générale, nous voyons l'œuvre se faire par des moyens méprisables du monde et efficaces quand, dans la dépendance, ils sont efficacés par le soudain de Dieu. Alors, car c'est justement là que la tentation pour les jeunes. Mais ailleurs, on ne croit pas nos moyens. Mais il y a donc davantage de possibilités. passer en tant que. Il nous appelle simplement à obéir, à faire attention à ces principes de séparation, afin que nous soyons non pas des serviteurs qui servent le maître avec brillance, avec quelque chose qui se remarque, mais que nous soyons ceux dont le Seigneur peut se servir.
On est souvent à parole par rapport au mouvement du service, auquel chacun peut être servi, auquel chacun peut être appelé. Il nous a dit de parler d'Ananias. Ça fait d'elle, chrétien, parce que je sens. Et au moment qu'on le prend, il a été un vase de son, duquel le Saint-Esprit a pu se servir pour l'envoyer vers le socle. Que Dieu nous accorde chacun d'être peut-être une base historique dont il peut se servir au moment premier, car tout est compréhensible.
Et peut-être qu'on peut bientôt sur ces passages, nous n'en savons rien, mais nous réalisons bien chacun que ce sujet est de la plus haute importance. Nous avions encore au risque d'être peut-être peu compris. Formuler cette observation. Un don est donné pour le corps tout entier, pour l'assemblée. Et ce fait important nous amène à comprendre mal comment un don donné par le Seigneur pour son assemblée puisse s'exercer dans d'autres conditions que celles-là. En groupant le parti, un certain nombre de personnes en dehors du terrain de l'assemblée. Alors un don, nous le répétons puisque nous avons touché ces sujets, un don est donné pour le corps tout entier. Est-il donné en vue d'être exercé pour une partie du corps seulement? Posons la question.
Voilà. Mais les dons sont pour tout cela. On veut bien. Nous avons aussi. En pensant aux jeunes, bon, qui en appel vient d'être adressé, c'est plutôt des conseils précieux. Il faut se placer, nous pensons, dans l'état actuel des choses, dans la rue de l'Église, devant la première épître aux Corinthiens. Notamment, dans la première partie doctrinale, du chapitre 3 au chapitre 10, verset 14, c'est la maison. Ensuite, c'est le corps. Et devant ces passages, c'est Dieu qui nous parle. Dieu est un Dieu d'ordre. Eh bien, est-ce que ce qui se passe autour de nous, dans les différentes dénominations, sans parler des églises de multitude, mais dans les dénominations les plus proches de nous, est-ce bien conforme aux enseignements donnés dans ces chapitres-là, notamment les chapitres 10 à 14? Si nous nous plaçons en toute humilité, avec le désir d'apprendre, de comprendre la pensée de Dieu, devant ces passages, eh bien, il nous semble bien que le Seigneur ne peut pas manquer de nous éclairer, de nous bénir. Maintenant, on nous a fait le reproche quelquefois de trop parler des glanciers. Eh bien, nous pensons que ce serait de la prétention de vouloir nous passer des précieux esprits qu'ils nous ont donnés. Mais nous aimerons leur recommander, il y a la bibliothèque ici, cet important ouvrage, l'Assemblée de Dieu, ou la pleine suffisance du nom de Jésus. La maison de Dieu, le corps de Christ et le baptême du Saint-Esprit. Et plus près de nous, nous avons l'article « L'Assemblée de Dieu ». 1945 sur l'heure. Dans une activité commune avec des croyants chrétiens, artistes, ministériels, on peut être amené à des situations très difficiles. L'homme dont Dieu s'est beaucoup servi, certainement encore en histoire, qui a amené sans doute bien des âmes à la connaissance du Seigneur, qui appartient à un autre système. Quand un croyant amené à la connaissance du Seigneur veut ensuite le trouver et lui demander maintenant, et maintenant, eh bien, un peu embarrassé, il ne pouvait plus dire, mais restez où vous êtes, restez dans votre milieu, soyez une lumière. Aussi, l'un de nous qui travaille avec quelqu'un appartenant à notre milieu, les âmes sont amenées. Le travail ne se limite pas à simplement la conversion. Le travail consiste à amener tout âme parfait, tout homme parfait en France. Ah, et alors? Et alors, deux chrétiens vont travailler ensemble dans un service de sainte évangélisation. Et quand une âme viendra la consulter, ils donneront deux avis différents. Leur dira « Allez chez les frères », votre dira « Allez les frères ». On ne peut pas avoir la prétention de réaliser la largeur du travail dans un simple service, dans un compassion d'évangélisation. Et puis, respecter quand même la séparation avec les gens. Peut-être que les choses sont dans tout.
À plusieurs reprises, dans le passage de Jérémie 15, à propos de cette séparation, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, tu seras comme un bouche, c'est la suite que je lirai. Et qui t'accorde aux esprits, qui reviennent vers toi, mais toi ne retourne pas vers eux. Donc, l'association dans le service de notre mère ne retourne pas vers eux.
Il y a un exemple remarquable dans la vie de Néhémie, et c'est le chapitre 6 de son livre qui fait l'objet d'un article qui a paru autrefois sur la plume d'un cher chapitre 22 de Samuel Proton, et qui a comme titre, c'est un article de haute valeur, il a comme titre « Ni relâchement ni étroitesse ». Et il montre que ce cher serviteur de Dieu a un travail à faire pour le Seigneur. Et il se garde bien de deux écueils. L'un, c'est de descendre dans une vallée, la vallée de Bono, ou autrement dit la vallée des artisans, où l'on joint toutes les bonnes volontés, où l'on met en œuvre toutes les ressources possibles pour donner efficace un travail d'ensemble, estimant que en se groupant, l'union fait la force, que nous aurons ainsi plus d'audience, une meilleure gestion. Ce cher serviteur de Dieu refuse de descendre dans la vallée d'Onor ou la vallée des artisans. D'un autre côté, on lui dit bien, enfermons-nous dans le temps, parce que tu cours certains dangers, on peut venir pour te tuer, un homme pour pouvoir purifier. Un homme comme moi qui est vide, fais-je tomber sur la table de l'homme. Et d'un autre côté, un homme comme moi entre-t-il dans le temple de Dieu sans enfreindre ce qui relève des dispositions que Dieu a établies pour la sacrificature dont je ne fais pas partie, sans doute. Je n'entrerai pas dans le temple. Moralité, conclusion intéressante tirée par l'auteur de notre demande ici et de nous. Le serviteur de Dieu ne consent pas à descendre dans une vallée des artisans où l'on s'élargit pour travailler avec tous, mais d'un autre côté, refuse de s'enfermer dans le temps, autrement dit, dans un code de vérité strict, orthodoxe, mais qui risque de rétrécir le cœur. D'où l'expression citée l'autre jour, la nécessité de marcher dans un chemin étroit, mais ayant dans le cœur l'énergie qui découle, qui produit l'expansion de la grâce. nos pieds dans un chemin étroit, mais notre cœur dans un sentiment large, embrassant tous les enfants de Dieu, et marchant dans un chemin étroit, ni la vallée de l'eau, ni l'intérieur du monde.
Vous avez dit tout à l'heure que le thème de base nous présentait le service qui était demandé aux fidèles. La parole de Dieu emploie d'autres thèmes pour exprimer la même pensée. Nous sommes chacun des rachetés du Seigneur et en ce sens-là, son esclave, son serviteur. Il y a des dons particuliers, docteurs, prophètes, pasteurs qui sont utilisés par Dieu pour le service du corps et dans l'assemblée. Mais il n'y a aucun thème qui souligne à ce point que tout vient de Dieu, que le thème de base. La base n'a pas d'autre existence, d'autre raison d'être, d'autres caractéristiques que celles que lui a attribué son créateur. C'est-à-dire, comme c'est dit dans Romains, le potier. La base est quelque chose qui sert à transmettre, à donner, à répartir un liquide, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse de l'huile, et qu'il s'agisse du vin. Et pour chacun de ces liquides, il y a certainement une signification spirituelle aisée à trouver. Mais ce terme de base nous souligne tout particulièrement que tout est de l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a créé le vase, c'est lui aussi qui s'en sert pour donner, là où il le faut, le liquide qu'il faut. Et finalement, le vase lui-même, a-t-il le sentiment qu'il est en or, en argent, en bois ou en terre? Vraisemblablement pas. Ce sont sans doute les autres qui le voient, Dieu en tout cas, le voit et le sait. Mais pour lui, il sert son office, il continue son office dans la main de Dieu.
Le sens sur lequel ce vase est appelé à honneur, parce que tout vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui ceci, Dieu qui prépare, Dieu qui forme ce vase. Et en effet, en quoi réside cet honneur? Tout d'abord, parce qu'il est sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Et puis pourquoi? Eh bien, pour un service, il est dit ici, utile au maître ou propre au service de Dieu. La pensée du service est même mentionnée dans le terme du texte original. La pensée du service qui confirme encore ce que mon frère vient de dire en parlant du vase, l'expression du service. Sanctifié, mis à part par Dieu, pour quelle raison, dans quel but, pour être utile au maître, et que alors, dans son sens le plus général, préparé pour tout honneur. Il n'est pas seulement dit pour tout honneur, mais préparé, et cela fait encore ressortir la pensée de la grâce de Dieu. Elle ressort constamment dans ce sens du verset, un vase à honneur, pourquoi? Par la grâce de Dieu, sanctifié, mis à part, mais par la grâce de Dieu, rendu utile au maître. Mais c'est la grâce de Dieu qui produit cela. Et ensuite, pas seulement pour tout bonheur, mais préparer, c'est la grâce de Dieu qui prépare ainsi le serviteur pour tout bonheur.
Il n'y a pas de plus grand honneur pour un chrétien, pour un roi, que de servir. C'est ce qu'il y a de plus grand. Servir. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa condescendance, dans son amour, il vient se servir d'elle-même, sachant briser la grande vie pour accomplir ses pensées. Mais nous prions par quelque soit le sens, pas dans la grandeur du ciel, c'est la fidélité avec laquelle je veux accomplir le service. Je peux d'ailleurs arrêter d'avoir un peu du ciel, mais à mes yeux, il est grand parce que je le fais pour lui-même. Et quelqu'un, il y a cette chose qui est très longue, et on va dans un temps de aimer, adorer, de servir en Dieu. Aimer, servir, suivre son maître, c'est le Seigneur. C'est une tournée. C'est les contacts et les rencontres encore parce que je sens que c'est là qui est la force pour nous pour accomplir le service que Dieu produit, soit dans l'assemblée, soit ailleurs. Et il faut être toujours en communion avec Dieu. C'est toujours comme ça. C'est là que nous trouvons la force nécessaire.
La parole de Dieu, plusieurs exemples de serviteurs qui ont été très conscients de l'honneur qui leur était fait de servir. Par exemple, dans l'Ancien Testament, le cas d'Isaïe, de Vitien, qui veut à tout prix suivre David, il veut servir son maître, et même, soit pour la mort,